Radio Cité Genève. L'œil du commissaire priseur, Viviane Juteau.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans l'œil du commissaire priseur. Aujourd'hui, je reçois la présidente du Conseil des ventes en France, c'est l'organe de surveillance des ventes aux enchères publiques de meubles. Madame la présidente, chère Catherine, bonjour.
Bonjour Viviane, je suis ravie.
Vous êtes aussi conseiller d'État et on va expliquer ce qu'est le Conseil d'État en France par rapport au Conseil d'État suisse. Alors, chère Catherine, on va expliquer donc le Conseil d'État d'abord, rapidement. Donc, le Conseil d'État, je vais vous laisser expliquer ce qu'est le Conseil d'État à la française.
Très bien. Écoutez, le Conseil d'État est, comme son nom l'indique, un organe de conseil de l'État. En réalité, ce n'est pas tout à fait exact parce qu'il a aussi un rôle de juridiction suprême pour tous les litiges publics. Mais sa mission de conseil de l'État fait qu'il doit examiner tous les projets qui sont élaborés par le gouvernement, les lois, les décrets, les révisions de la Constitution, et donner un avis, donc, le gouvernement étant libre ou non de le suivre. L'avis que nous donnons est un avis en droit, bien sûr, et non pas en opportunité politique. Nous ne sommes pas un organe politique.
Alors c'est très important, puisque vous savez qu'en Suisse, au contraire, le Conseil d'État, ce sont les ministres en exercice. Mm-hmm. Donc c'est sensiblement différent. Et alors maintenant, votre casquette, qui est la casquette dont on va parler tout au cours de cette émission particulièrement, donc votre casquette de présidente du Conseil des ventes. Alors il faut expliquer ce qu'est le Conseil des ventes, si vous voulez bien.
Oui, alors le Conseil des ventes, c'est une institution qui est unique au monde, parce que nous avons une législation française sur les ventes aux enchères, et il n'y a pas le pendant dans d'autres États. Et c'est, la loi d'ailleurs l'a qualifiée comme telle, une autorité de régulation. C'est-à-dire nous ne sommes pas du tout un syndicat professionnel de défense des commissaires priseurs. Nous sommes là pour vérifier que les ventes aux enchères de meubles en France se déroulent de manière correcte, conforme à la loi. Et nous protégeons aussi bien donc les vendeurs que les acheteurs qui doivent attendre de ce mécanisme particulier un certain nombre de garanties.
Alors Catherine, quand on dit des vendeurs de meubles, on est bien entendu que ce ne sont pas simplement les meubles, ça peut être c'est les tableaux, c'est les meubles. Par opposition aux immeubles.
Tout à fait.
Ce qu'il faut préciser aussi pour nous
Tout
Suisses.
Voilà.
Donc, important de le dire, parce que ce n'est pas seulement les meubles du salon ou de la chambre, c'est également tout ce qui peut se bouger en tant que meuble au sens juridique du terme.
Voilà, et cela va même au-delà du meuble inanimé, puisque sont considérés comme des meubles, bien qu'il y ait eu une réforme récente en France à ce sujet, les animaux. Donc, les ventes aux enchères, notamment les ventes aux enchères de chevaux, les fameux yearlings qu'on vend au mois d'août à Deauville, eh bien, nous vérifions effectivement que les ventes aux enchères se déroulent correctement.
Alors, c'est une lourde tâche parce qu'il y a énormément de ventes en France. Il y a énormément d'acteurs aussi. Il y a combien de commissaires-priseurs
en France ?
Il y a
à peu près 650 commissaires-priseurs.
650 ?
Oui,
ça fait beaucoup, ça.
Oui.
Ça fait beaucoup parce que autrefois les commissaires-priseurs étaient au chef-lieu et puis ils étaient tout seuls ou à peu près.
Certains sont regroupés dans des maisons, donc il y en a à peu près 400, mais 650 personnes physiques commissaires-priseurs. Mais c'est aussi une bonne chose parce que cela montre qu'il y a un bon maillage territorial sur l'ensemble, donc en point de vue culturel, parce que je persiste et je dis toujours que les commissaires-priseurs ont un rôle culturel en matière de développement, de la connaissance de notre richesse patrimoniale. Voilà.
Alors, on va aussi expliquer, si vous voulez bien, ce qu'est un commissaire-priseur à la française, parce que vous savez que ce sont des huissiers en Suisse qui font les ventes publiques, et que cette activité qui est à la fois avec un titre de l'État et la finance privée, cette dualité n'existe pas non plus à l'étranger, et en tout cas pas en Suisse. Donc, on va expliquer ce qu'est le commissaire-priseur français.
Voilà. Alors, les commissaires-priseurs, c'est une très ancienne profession, puisque pour faire un tout petit peu d'histoire, il y a un édit d'Henri II, je crois que c'est de 1562, qui déjà les réglementait. Et ils ont longtemps été ce qu'on appelle des officiers publics et ministériels, c'est-à-dire qu'ils avaient la double casquette d'exercer donc un service public, et en même temps, ils pouvaient vendre volontairement donc des biens. Et puis en 2000, avec l'Europe et les exigences donc de la liberté d'établissement et de la liberté de prestation de services, on a scindé la profession en deux, les commissaires-priseurs judiciaires, qui restent toujours des officiers ministériels et qui exécutent donc les ventes ordonnées par la justice, et puis les commissaires-priseurs volontaires, qui font des ventes, donc, comme leur nom l'indique, volontaires, étant précisé qu'un même commissaire-priseur peut avoir les deux casquettes, à condition bien sûr qu'il exerce séparément, pas de confusion donc de genre entre les deux. Voilà.
Alors, ils sont aujourd'hui, donc vous l'avez dit, assez nombreux. Ils sont sur tout le territoire français, avec quand même une grosse prédominance de Paris.
Bien sûr, bien sûr. Avec donc à Paris, vous avez ce que nous appelons, nous, les trois grands, Sotheby, Christie, Arcurial, qui sont, puisqu'on parlait tout à l'heure des chevaux, je dirais que dans une course, ils sont très très loin devant et que le peloton est derrière, en quelque sorte. Mais il y a les commissaires-priseurs donc, qui officient donc, à Drouot. Drouot n'étant qu'un lieu de location, en quelque sorte, de salle, mais n'est pas une entité juridique, c'est pas un commissaire-priseur Drouot. Il y en a à peu près 74, donc. Et puis, il y en a certains, d'ailleurs, qui ont leur propre maison de vente.
Alors, il y a beaucoup de commissaires-priseurs de province qui rêvent de venir vendre à Drouot parce qu'ils se trouvent devant un public bien élargi. Par exemple, je pense... un jeune confrère de Marseille qui est très brillant et qui vient vendre à Drouot.
Oui, tout à fait. Mais je crois que ces échanges sont plutôt rares. Et de même, donc, il y a peu de maisons parisiennes qui ont des succursales en province. Et c'est dommage parce que je crois que chacun peut profiter de ce double échange, aussi bien la province que Paris.
On va écouter un peu de musique, Catherine.
Tout à fait.
Ce sont vos choix qu'on écoute.
Merci.
Radio Cité Genève.
Viviane Juteau.
L'œil du commissaire-priseur.
Avec Catherine Chadelat, dont nous avons dit tout à l'heure qu'au-delà d'être conseiller d'État en France, et on a expliqué ce que c'était, à la différence du conseiller d'État suisse, elle est aussi la présidente du conseil des ventes. Alors, on a campé le décor tout à l'heure, Catherine, et maintenant, je voudrais que vous m'expliquiez qui sont vos collègues du conseil des ventes et ce que vous y faites.
Alors, le conseil des ventes est un petit organisme, puisque nous sommes 11 membres, 11 titulaires et 11 suppléants, et avec des compétences variées. Donc, conseiller d'État, conseiller à la Cour de cassation, qui est la juridiction suprême de l'ordre judiciaire, conseiller donc à la Cour des comptes, qui vérifie les comptes de l'État. Nous avons un avocat fiscaliste, nous avons un inspecteur général des finances. Vous voyez qu'on est bien loin donc de l'art, mais le conseil des ventes, donc, et c'est un de ses rôles, donc, observe l'économie des enchères et il est bon d'avoir des compétences financières donc en la matière. Et puis bien sûr, les professionnels sont représentés, donc aussi bien des maisons parisiennes que des maisons de province, des experts également. Nous avons un conservateur donc en chef du patrimoine, spécialiste des archives publiques, puisqu'il y a beaucoup d'archives qui sont vendus dans les ventes aux enchères. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'archives publiques. Quelquefois, il y a des archives.
Il y a des glissements, on va dire.
Oui. Non, mais le statut des archives publiques n'est pas simple non plus, il faut le dire. Donc, nous travaillons donc. Le rythme est assez soutenu. Nous nous réunissons donc en séance plénière tous les 15 jours. Puis, il y a des petits groupes de travail sur des questions thématiques diverses, la formation professionnelle, les bonnes pratiques. Nous avons un comité d'audit financier, la question du blanchiment de l'argent. Sur lequel
on va en parler tout à l'heure parce que c'est un des sujets.
Voilà. Donc, nous avons un triple rôle. D'abord, nous sommes en quelque sorte un organisme d'intermédiation entre la profession et les pouvoirs publics. Puisqu'il y a eu cette libéralisation en 2000, il n'y a plus d'organisme pour les commissaires-priseurs volontaires qui représentent, qui chapeautent la profession, à la différence des commissaires-priseurs judiciaires qui ont une chambre nationale. Donc, quand il y a des messages à faire passer, nous les faisons. Donc, nous faisons remonter l'information des professionnels pour que les pouvoirs publics comprennent les préoccupations et à l'inverse, donc, nous informons donc les professionnels. Ensuite, nous sommes une force de proposition législative, c'est-à-dire que nous sommes là pour appliquer donc les textes et quand il y a des difficultés, des problèmes, nous en faisons part au pouvoir public. Là, j'ai remis au mois de décembre un rapport à la ministre, donc, parce que la loi actuelle, dans son application pratique, a quelques petites défectuosités auxquelles il faudrait remédier.
Catherine, là, il faut en parler parce que c'est important. Cette loi Macron, les Genevois lisent beaucoup dans la presse. Ce qui concerne la France, qui n'est pas si éloignée, vous savez qu'on a 3 frontières sur la France à Genève. Donc cette loi Macron, avec tout ce qu'elle implique de changements profonds sur ces professions, ça mérite qu'on s'y arrête un instant, si vous voulez bien.
Oui, tout à fait. Mais alors, je fais tout de suite une remarque. C'est que la loi Macron ne concerne que les commissaires-priseurs judiciaires. Bon, je n'ai pas compétence donc en tant que présidente du Conseil des ventes à leur égard, mais comme je vous ai dit tout à l'heure qu'un même commissaire-priseur pouvait à la fois faire du volontaire et du judiciaire, les changements opérés par la loi Macron vont avoir une incidence. Bon. Et la loi Macron souhaite donc en quelque sorte fusionner la profession de commissaire-priseur judiciaire avec celle d'huissier de justice dans une nouvelle profession. La seule petite difficulté, c'est que d'abord, ce sont des professions qui, jusqu'à présent, faisaient des choses relativement différentes et qu'en plus, leur représentativité respective est vraiment sans commune mesure, donc l'une par rapport à l'autre.
On va dire, si vous voulez bien, Catherine, que les commissaires-priseurs n'ont pas envie forcément d'être huissiers, alors que tous les huissiers voudront être commissaires-priseurs.
Je crois que vous avez assez bien résumé, Viviane. Voilà. C'est tout à fait ça. 3 000 d'un côté, 300 de l'autre. Voilà.
C'est ça, en plus.
Oui. Alors donc, si effectivement donc cette partie judiciaire donc est amenée à évoluer, donc alors quand la loi sera votée, il faudra des textes d'application. C'est pas pour tout de suite. Hein. Donc il y a un échelonnement.
Quand on dit c'est pas pour tout de suite, l'échelonnement dans le temps, qu'est-ce que c'est, deux trois ans.
Si vous voulez, alors je vais être un tout petit peu technicienne. La loi sera, je pense, adoptée donc en juillet. Et dans la loi, on renvoie à une ordonnance, ça s'appelle en France une ordonnance, le soin de préciser comment cette nouvelle profession qui s'appelle appellerait commissaire de justice, sera organisée. Donc il faudra élaborer cette ordonnance, il y a un certain délai, et il est indiqué, parce qu'il y a des directives données dans la loi, que cette nouvelle profession sera donc mise en place progressivement. Voilà. Donc, ce n'est pas bon un coup près, mais il est certain donc que le principe donc figurant dans la loi, il y aura une évolution. Voilà. Bien et sûr. Donc, s'il y a une évolution sur le judiciaire, il y aura sans doute une répercussion sur le volontaire.
Et il faut dire aussi que pour la plupart des études, en dehors des chevaux de course dont vous avez parlé tout à l'heure, il est bien évident que financièrement, il est intéressant d'avoir les deux casquettes,
bien sûr.
Parce que ça permet une rentabilité meilleure des offices de commissaire-priseur. Donc en fait, c'est presque une obligation pour un commissaire-priseur.
Mais d'ailleurs, les deux tiers de la profession font les deux.
Absolument, donc, absolument. Et c'est l'intérêt aussi du métier, ça, pour l'avoir pratiqué. C'est aussi une grande partie de l'intérêt du métier. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors si vous voulez bien, on va écouter à nouveau un peu de musique. Et puis on va revenir à toutes ces différentes problématiques tout à l'heure parce que j'ai beaucoup de questions à vous poser, Catherine. Beaucoup. Mais on écoute vos choix de musique.
Très bien.
Terre brûlée au vent des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants. Un peu d'enfer, le Connemara, des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Suivante, le ciel irlandais était en paix. Maureen a plongé nue dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit, je suis catholique. Maureen aussi, l'église en granit de Limerick. Maureen a dit oui. De Tipperary, Barry Connolly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connolly, aux Connolly, les Flaherty, du Ringham Kerry et de quoi boire trois jours et deux nuits. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix du silence. Là-bas, au Connemara, on dit que la vie, c'est une folie. Que la folie, ça se danse. Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants. Un peu d'enfer, le Connemara. Les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. On y vit encore au temps des Gaël et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un coup de meilleur. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix de la guerre. Là-bas, au Connemara, on n'accepte pas la paix des Gallois, ni celle des rois d'Angleterre.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans l'œil du commissaire-priseur avec Catherine Chadla. Catherine Chadla qui, au-delà d'être conseiller d'État, ce qui est quelque chose de très prestigieux en France, est aussi la présidente du Conseil des ventes. Et à ce titre, je lui ai demandé de venir nous expliquer les grands problèmes que rencontrent en ce moment ces métiers qui sont en constante évolution et qui sont en évolution parce que aussi à l'étranger on pratique différemment et que les frontières sont poreuses, il n'y a plus de frontières. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quels sont vos grands soucis, Catherine?
Alors moi je dirais que, parce que je connais bien ce secteur pour l'avoir, je ne le fais plus maintenant, déontologie oblige, pour l'avoir pratiqué, donc j'achetais beaucoup dans les salles de vente il y a longtemps. Je dirais que depuis moins d'une dizaine d'années, il y a une transformation absolument totale sous l'effet de l'internationalisation et internationalisation grâce à l'Internet. Bon. Les ventes sont, je parle des ventes de prestige, les ventes de belle qualité, ce sont des ventes où le public est international, qu'il s'agisse aussi bien des vendeurs, mais surtout des acheteurs. L'exemple clé, c'est, je le cite parce que je crois qu'il est très parlant, c'est qu'on peut être commissaire-priseur dans une ville de province, pour ne pas la nommer Toulouse, vendre un seau chinois et avoir un acheteur donc à l'autre bout du monde avec des sommes records en termes d'adjudication. Donc une internationalisation, l'usage de l'Internet, donc, mais l'usage de l'Internet, c'est aussi, et là c'est peut-être l'envers du décor, c'est aussi le développement d'un marché qui n'est pas régulé, c'est-à-dire nous appelons le marché non régulé, le marché qui n'obéit pas à la législation et n'est pas sous le contrôle du Conseil des ventes. Ce sont les très grandes maisons que nous connaissons tous sur le net et qui peuvent faire des opérations voisines des ventes aux enchères, mais qui ne sont pas des ventes aux enchères.
Alors il faut peut-être préciser que justement la régulation française était intéressante en ce sens qu'elle était une grande protection, oui, du vendeur et de l'acheteur. Protection du vendeur parce qu'il fallait un document écrit pour bien marquer et sa propriété et son désir de vente. Donc oui, on ne peut pas vendre le bien d'autrui. Mmh, mmh. C'est important, mmh, on oublie ça. Mmh. Mais dans une période où tout est tellement volatile et où il y a beaucoup de cambriolage, c'est important. Et deuxièmement, ensuite, la sécurité de la transaction, c'est-à-dire l'assurance que le prix sera payé. C'était une protection de l'acheteur et du vendeur. Je dis c'était parce qu'aujourd'hui, effectivement, avec Internet, c'est en train de glisser. J'aimerais, oui, qu'on en parle de ça.
Oui, oui. Il y a la question des impayés est une question qui prend, alors je ne sais pas si de plus en plus d'ampleur, je ne crois pas, mais en tout cas qui est vraiment récurrente et qui se pose dans des conditions très différentes suivant que les ventes sont franco-françaises, c'est-à-dire, je dirais, les ventes de qualité classique avec des acheteurs français. Là, je crois qu'on a quand même suffisamment de moyens de protection. Je rappelle que la CNIL, qui est la Commission nationale d'informatique et liberté en France, autorité administrative indépendante qui contrôle donc tous les fichiers, a autorisé donc la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires à avoir un fichier des mauvais payeurs, donc pour se prémunir. Donc maintenant, quand vous avez un acheteur qui est en Chine et qui ne paye pas, je ne suis pas sûre que la coopération international, ça c'est la juriste qui parle, soit suffisamment efficace pour être sûr de
non, certainement d'être payé. Pas, mais là, il y a peut-être, quand vous citez la Chine, j'y ai pensé pendant que vous parliez tout à l'heure, mais là, il y a peut-être une éducation en, oui, cours d'ailleurs, parce, oui, que ça s'améliore progressivement. Oui. Oui. Mais c'est vrai qu'au départ, les Chinois comprenaient la vente aux enchères comme une sorte de jeu, oui, où on levait la main et n'avaient pas idée qu'il y avait une translation de propriété et encore moins une dette.
Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, donc, dans notre troisième rôle, qui est celui d'observer l'économie des enchères, nous sommes penchés sur, effectivement, le caractère très, très atypique, hein, des ventes chinoises où, comme vous le dites très justement, le paiement n'est qu'un accessoire. J'exagère un peu, mais presque.
Non, c'est presque ça.
À l'enchère. Et donc, le taux des impayés en Chine pose problème. Et j'ai cru comprendre que les pouvoirs publics essayaient, vraiment de...
Mais je crois que c'est en train de se réguler un petit peu, en tout cas sous l'influence des maisons qui sont installées à Hong Kong ou qui sont installées en périphérie de la Chine continentale, oui, et qui, elles, exercent, oui, quand même une certaine sévérité à l'égard, mm-hmm, des mauvais payeurs, mm-hmm, qui viennent opérer à l'extérieur de Chine continentale. Mm-hmm. À l'intérieur, c'est plus problématique, d'autant plus que tous les noms se ressemblent, comme vous savez, ne s'écrivent pas avec notre,
exactement,
alphabet. Donc, même retrouver les acheteurs, c'est presque mission impossible.
Oui, oui, oui. Oui, alors donc il y a cette question des impayés qui vraiment... Bon. Et puis alors, nous sommes très attachés et nous avons d'ailleurs obtenu un amendement à une loi sur la protection du consommateur en 2014, que je crois être très important, c'est qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit du public sur ce qu'est une vente aux enchères. Le terme de vente aux enchères qui est très porteur, parce que, comme vous dites, en plus, il est ludique.
Bon, tout à fait.
Ce terme-là, donc, ne doit pas être employé lorsque, derrière la vente aux enchères, il n'y a pas un opérateur de vente avec un commissaire-priseur habilité.
Alors, comment est-ce que vous l'appelez ? Opération de courtage ?
Alors, c'est une opération de courtage. Et la loi Hamon sur la consommation sanctionne, même donc pénalement, l'utilisation abusive du mot « vente aux enchères ». Donc si ce terme est utilisé et qu'il n'y a pas les garanties derrière, parce que les garanties, c'est les garanties de compétences, un professionnel, il faut des diplômes hein, pour être commissaire-priseur.
Donc, oui, il en faut quelques-uns.
Oui, voilà, exactement. Donc en art, en droit, 2 ans de stage, un examen d'entrée, un examen de sortie. Donc il y a de la compétence, il y a des garanties financières, il faut une assurance de responsabilité professionnelle, il y a un compte de tiers. Quand le vendeur, verse l'argent à remettre à l'acheteur, c'est pas sur le compte
c'est
du commissaire-priseur, c'est sur un compte de tiers. Et celui-là,
sûr,
donc, il doit
sûr.
Être garanti. Oui. On n'a pas ça... nécessairement ces garanties dans le marché dit non régulé.
Alors, sur Internet, il y a deux façons aussi de considérer les ventes aux enchères sur Internet, entre guillemets. Donc, il y a l'opération de courtage dont vous parlez, qui ne fait au fond que de rapprocher un vendeur et un acheteur, personne n'ayant d'autres obligations que celles du Code du commerce, je crois.
Tout à fait.
Et puis, il y a aussi les commissaires-priseurs qui ont élargi leur audience, parce qu'il est bien évident qu'aujourd'hui, on n'a pas toujours le temps d'aller passer son après-midi dans une salle des ventes. On est intéressé quand même à enchérir, donc on met des enchères par Internet. Et là, c'est quand même pratique, on va dire comme ça.
Tout à fait. Mais nous constatons un développement absolument considérable donc, de l'utilisation par les commissaires-priseurs du net. Alors, je dirais que, sauf dans un secteur très particulier, celui des véhicules automobiles d'occasion, parce qu'eux aussi, ils se vendent aux enchères, donc nous contrôlons également. Comme il est assez difficile de mettre 600 véhicules à vendre dans une salle d'exposition, tout cela est complètement dématérialisé. Mais dans l'immense majorité des cas, les ventes qui utilisent le NES sont des ventes semi-dématérialisées. C'est-à-dire qu'il y a une vente en salle, avec les objets qui sont présentés aux acheteurs présents, et on peut enchérir sur le net. Et par exemple, une maison comme un lieu de vente comme Drouot, donc, a vu, mais dans des conditions absolument considérables, augmenter les ventes sur le net. Ça a l'avantage, beaucoup plus que dans le temps où il y avait le coup de téléphone, où il fallait interrompre la vente, voir si l'acquéreur était bien en ligne, etc. Ça permet au moment donc où on s'inscrit sur le net
une identification meilleure.
Ben voilà, de prendre des précautions.
Tout
voilà.
à fait.
Il faut identifier.
Donc. On écoute un peu de musique à nouveau,
oui,
Catherine.
Bien sûr, je ne m'en lasserai jamais.
Radio Cité Genève, l'œil du commissaire-priseur, Viviane Juteau.
Avec Catherine Chadelat, la présidente du Conseil des ventes, organisme de régulation des ventes de meubles, des ventes aux enchères de meubles. Catherine, on va parler maintenant d'un sujet qui vous est cher, parce que vous avez pas mal publié dans la presse française en tout cas. Ce sont ce que vous appelez les ventes sensibles. Qu'est-ce que c'est qu'une vente sensible ?
Ah oui. Alors, je ne suis pas sûre donc, que le phénomène donc, qui est très médiatique ait pris une ampleur considérable. Simplement, ce sont des ventes qui portent sur des objets qui les uns peuvent
choquer.
Qui peuvent choquer, mais au-delà de ça, qui peuvent contrarier des convictions profondes. Voilà. Alors, ça peut aller, par exemple, des demandes qui sont en fait de manière récurrente, les masques Hopi. Les masques Hopi, c'est une tribu américaine, donc les Hopi. Et pour eux, ces masques qui sont des masques de tissu représentent le défunt lui-même. Donc, il est impensable qu'on puisse vendre aux enchères.
Et d'un autre côté, ils ont laissé sortir
tout
en notre temps
tout
ces
à fait.
Objets.
Mais de toute façon, moi, je suis sur ces ventes dissensibles. Et je vous citais cet exemple, mais il y a quelques fois, des exemples qui
pour
sont...
Pour les Hopis, on ne les a pas empêchés d'être vendus.
Non. Et donc, voilà, trois fois que je suis saisie et trois fois, donc, où je dis ces objets, principe de la liberté du commerce, donc principe de la liberté de vente, il n'y a pas d'interdiction en droit français.
Je crois que les objets nazis, par contre, voilà. ça pose davantage
alors,
problème.
Je dirais qu'il y a des objets où, d'abord, c'est extrêmement parlant parce que ça correspond à un passage de notre histoire. Vous parliez des objets nazis qui laissent, en particulier à l'égard de certaines communautés, des souvenirs, et on le comprend tout à fait. Quand on vend Mein Kampf, quand on vend des objets personnels, par exemple le passeport de Göring, on a vu, vous avez des réactions qui sont parfaitement compréhensibles. Mais quelquefois, au-delà de cela, ça peut choquer tout un chacun, je dirais, lorsque on vend des instruments de torture.
Je voudrais rester sur le chapitre de la dernière guerre, si vous voulez bien, parce que j'ai vu qu'on était un peu sceptique sur la mise en vente de tenues de déportés. Mais vous ne pensez pas que c'est pratiquement historique, ça, et que ça ne choque pas ? Moi, ça ne m'a pas choqué cette vente-là.
Alors, non, moi, je vous dirais qu'il y a la technique de la vente aux enchères et le principe même, donc, de pouvoir vendre ce type d'objet. Il est clair qu'une vente aux enchères, lorsque vous avez une salle, lorsque vous avez des acheteurs, vous ne savez pas qui est en face de vous, vous ne savez pas dans quelles conditions, puisque secret du vendeur, l'objet donc est venu jusqu'au commissaire-priseur. Ce caractère public donne une dimension un peu particulière à ce type de vente. Il est certain, d'autre part, que même une tenue déportée ou un objet de torture qui correspond à...
Mais c'est un objet de torture,
non,
c'est encore autre chose.
Je pense que le dénominateur commun, c'est que ça correspond à des moments de notre histoire. La tenue de déportée, la Seconde Guerre mondiale, les atrocités qui se sont commises, les instruments de torture du Moyen-Âge, c'est aussi, ça fait partie aussi de notre histoire. Alors, là, je dirais que ce n'est pas incessible. D'ailleurs, je veux dire, il n'y a qu'une seule catégorie d'objets avec un texte précis qui ne peuvent pas être vendus. Tout le reste peut être vendu. La tenue déportée, Mein Kampf,
la guillotine,
tout peut être vendu. Il n'y a une seule catégorie, c'est le corps humain, ses produits, ses restes, etc. Parce que c'est article 16.1 du Code civil, c'est la dignité humaine, ce n'est pas une marchandise, le corps humain, même après sa mort. Tout le reste est vendable. Mais je dirais qu'il y a manière de vendre. Vous parliez tout à l'heure de la tenue de déportée d'Auschwitz. Lorsque vous avez sur le catalogue la petite annotation, je ne l'invente pas. En bon état, déjà, ça peut resservir. Enfin, excusez-moi, je fais de l'humour très, très
horreur.
Noir.
Quelle horreur. Oui. Costume, mais en bon état, c'est pour dire que ce n'est pas en morceaux. Oui.
Costume de lin grège avec rayures bleu natier.
On a fait un peu de zèle.
Je pense que c'est peut-être ça, si vous voulez, qui a fait davantage réagir. Mais lorsque vous dialoguez avec les commissaires-priseurs, cet objet a été retiré de la vente. Moi, je demande à mes services de leur dire, écoutez, vous voyez, c'est cessible, vous pouvez le céder à un musée, vous pouvez le céder de gré à gré. Est-ce que vraiment vous voulez faire venir ça en vente aux enchères avec le public qui verra dans le catalogue la légende ? Vous comprenez, il y a une dimension un peu différente. Oui. Et c'est cela où on fait attention. Une vente aux enchères publiques donne un caractère à la fois médiatique et un caractère un peu plus émotionnel qu'une vente privée.
Alors, il y avait un musée dans le sud de la France, si je me souviens bien, de la torture. Il était ouvert au public, donc les gens pouvaient aller contempler. Je trouve ça une horreur personnellement, mais vous avez des gens assez curieux ou assez malades pour s'en repaître. Et à partir du moment où le public était admis dans ces salles, c'est vrai que j'ai trouvé un peu choquant qu'on interdise la vente de ces objets.
Mais elle n'a pas été interdite.
Elle n'a pas été interdite.
Non. Lorsque nous avons été donc alertés sur cette vente, nous avons pris contact avec le commissaire priseur qui nous a expliqué effectivement que après le décès du propriétaire de ce musée, les héritiers donc souhaitaient vendre la totalité des objets.
Je comprends qu'ils s'en séparent.
Tout à fait. Bon, ils auraient pu aussi le donner à un musée ou le vendre. Ils ont souhaité le vendre aux enchères et j'avais simplement appelé la du commissaire priseur qui en était d'accord, qu'il serait bon qu'au niveau de l'exposition, on ait un certain doigté dans la manière de présenter les choses. Et la vente n'a pas eu lieu du fait d'une circonstance tout à fait étrangère, puisqu'un gouvernement étranger avait cru qu'un des objets avait servi, dans un moment sombre de l'histoire, donc à l'égard de sa population, et on était à la limite du scandale diplomatique et très raisonnablement.
Ça, c'est autre chose.
Voilà.
Oui.
Mais la vente était licite en droit français. Vendre une guillotine est licite en droit français.
En fait, on est un peu dans le, dans un jugement un peu subjectif, c'est vrai, mais où on essaie de ne pas choquer. Pourrait porter très loin de ne pas choquer, parce que les catholiques sont souvent choqués de voir aussi des calices ou des ciboires
dans les
ventes
publiques. Je vous rassure, Viviane, le Conseil des ventes est là exclusivement pour appliquer la loi. Ou un texte interdit la vente, ou il ne l'interdit pas. S'il n'y a pas de texte d'interdiction, donc toutes ces ventes se font. Simplement, il est possible, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on mette un minimum de doigté pour certains objets qui peuvent,
choquer, c'est normal.
Sinon choquer, émouvoir, je dirais.
On écoute un peu de musique après ce passage un peu
il
dur.
Le faut,
oui.
Il le faut.
Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse. Avec infiniment de brumes à venir, avec le vent de l'est, écoutez le tenir, le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne. Où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir. Avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir, le plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord, écoutez-le craquer. Le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien.
Radio Cité Genève, Viviane Juteau.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans l'œil du commissaire priseur avec Catherine Chadelat, la présidente du Conseil des ventes, dont vous savez maintenant tout à fait ce que c'est. Et nous allons parler, ma chère Catherine, si vous voulez bien, d'un personnage qui assiste le commissaire priseur et qui est donc à ce titre quelqu'un de très important dans la vente publique aux enchères. C'est l'expert. Mmh. Alors, qu'entend-on par expert en France ?
Ah, c'est un vaste problème, puisque l'expert n'est pas une profession. Être expert, ce n'est pas donc une profession. Et je dirais même que l'activité n'est pas réglementée, sauf un cas bien particulier, mais je mets cette catégorie à part, les experts judiciaires, c'est-à-dire qui sont inscrits sur les listes dressées par la justice et qui sont désignés dans le cadre de procédures. Mais l'expert classique qui assiste le commissaire priseur, bon, dans une spécialité déterminée, c'est une profession qui n'est pas réglementée. N'importe qui peut
assister le commissaire priseur.
Mais les experts donc qualifiés, bon, c'est quand même l'immense majorité, donc se sont donc organisés. Il y a des compagnies d'experts. Ils promeuvent une déontologie. Ils vérifient qu'il y a bien des qualités dans la spécialité requise. Et là, bon, nous dialoguons d'ailleurs avec ces compagnies. Là, il y a vraiment un travail sérieux qui a été fait. Mais le problème, c'est que, bon, ils n'interviennent qu'à l'égard de leurs membres. Et vous pouvez avoir un catalogue sur lequel il est écrit en première page « Monsieur X, expert ». Et on ne sait pas ce qu'il fait. Et on ne sait même pas si vraiment il est expert, parce que bien souvent, on s'aperçoit, et là, c'est un gros problème, qu'en réalité, il a été soit un vague sachant,
bon. Ou un apporteur d'affaires.
Alors, je ne sais pas si vos auditeurs savent ce qu'est, mais le mot est évocateur, un apporteur d'affaires, c'est-à-dire qu'il apporte les objets à vendre, clé en main, au commissaire-priseur. Et là, je suis très, très mécontente à chaque fois que je vois ça. Et je sévis contre le commissaire-priseur, parce que je n'ai aucun pouvoir, et je ne revendique pas d'ailleurs sur les experts, mais un commissaire-priseur, donc, doit garder la maîtrise de sa vente et garder son indépendance. Alors, on peut lui apporter des affaires, mais la vente entière, clé en main, il est arrivé un jour de sanctionner un commissaire-priseur, de suspendre, parce que j'ai le droit de suspension, un vendredi pour une vente. Je demandais au commissaire-priseur qu'est-ce qu'il allait vendre, où ça se passait, à quelle heure ça commençait. J'ai pas eu de réponse à aucune de ces questions.
Il ne savait pas.
Il savait pas.
Il allait arriver dans sa
il
salle.
Pas. Il était le tombeur de marteau. Voilà. C'est rare, mais vous voyez, rare, ça peut arriver. Rare. Alors donc, attention qu'ils ne se dessaisissent pas, les commissaires-priseurs, au profit de ces experts qui n'en sont pas. Et dans le rapport que j'ai rendu à la ministre au mois de décembre, après avoir auditionné, bon, les compagnies d'experts en France, bon, j'ai fait des propositions, notamment qu'ils soient inscrits sur le catalogue, experts auprès de la compagnie. Hein, qu'on n'emploie plus les termes de sachants qui ne veulent strictement rien dire, et que quand il y a une difficulté, bon, déontologique au niveau d'un commissaire-priseur ou au niveau d'un expert, il y a un échange d'informations entre les compagnies d'experts et le conseil des ventes pour qu'on sache, bon, ce qu'il en est. Mais je crois qu'il faut faire très, très, très attention, parce que le public peut être trompé en pensant que l'objet, il est parfait parce qu'il a été décrit comme parfait. Or, quand même, nous constatons dans certains domaines, vous parliez de la Chine tout à l'heure, un nombre de faux qui sont...
Importants,
oui. Oui, oui.
Parce que, justement, les experts n'en sont pas. Les experts
exact.
Sont des commerçants apporteurs
oui.
d'affaires.
Oui, oui.
Qui écoulent oui. tout ou partie de leur stock de cette façon-là, ce qui n'est d'ailleurs pas exactement la règle du jeu non plus, mais bon, c'est... la règle du jeu a changé, c'était de
oui.
mon temps interdit.
Oui.
Aujourd'hui, c'est autorisé, c'est oui. la liberté du commerce, mais c'est vrai que du coup, les experts devraient être des experts plus indépendants de la
oui.
marchandise, si
oui.
je puis dire.
Oui. Mais le propre d'un expert comme d'un commissaire-priseur, c'est d'être indépendant. L'expert n'est pas au service de quelqu'un, l'expert est là pour dire, voilà, cet objet, il a telle qualité, tel défaut, il provient d'eux, voilà, c'est son rôle. Mais, vous savez, je parlais tout à l'heure de l'utilisation fallacieuse du mot vente aux enchères, mais c'est la même chose, l'utilisation fallacieuse du mot expert, lorsque nous n'avons pas quelqu'un qui est compétent dans une spécialité. Alors, quand on voit des experts qui sont spécialistes dans tout, on se rend compte que
ah oui,
là, on ne frise vraiment
Ce sont des grands
pas.
Généralistes.
Exactement. Voilà.
Oui. Alors, quels sont vos autres soucis ? Je sais que vous avez beaucoup de soucis, ma chère Catherine. Vous avez beaucoup de gens à contrôler ou à conseiller, parce que vous prenez votre rôle sous forme de conseil, je le sais.
Oui.
Et non pas en mère fouettarde, si vous me
non,
permettez
non, non.
le
bon,
terme.
Vous savez, nous avons un pouvoir disciplinaire. Bon, on n'en abuse pas. Mais moi, on a un recueil déontologique, mais j'ai toujours dit aux commissaires-priseurs que c'était un instrument, un atout pour eux, parce que ça montre qu'ils ont des exigences de qualité qu'on ne trouve pas par ailleurs. Alors, justement, c'est une de mes préoccupations. Moi, je n'ai absolument aucun espèce de jugement à porter sur d'autres systèmes que le nôtre. Bon. Et je comprends tout à fait que les ventes qui ressemblent à des ventes aux enchères, des courtages, etc., donc, soit en plus c'est sur le net, donc c'est très ludique, en particulier pour les jeunes. Puis on trouve des petites choses, avec des frais d'intermédiation qui sont relativement limités. Tout ça, je le comprends très bien. Mais il faut quand même faire un petit peu attention parce que, et ça c'est une donnée que l'on voit depuis 5-6 ans, il y a de moins en moins d'objets à vendre, de qualité. Bon. Et les transferts du passage des ventes aux enchères vers d'autres pays qui vendent dans des conditions plus faciles ou vers d'autres instruments comme le net, j'avoue que là, je trouve que c'est un peu préoccupant. On dit toujours, mais vous êtes certainement la mieux placée pour dire si ce jugement est exact ou non, qu'au fond, pour un commissaire-priseur, c'est pas tellement comme préoccupation d'avoir un acheteur, mais c'est surtout d'avoir un vendeur.
Oui, voilà. Parce que l'acheteur, c'est quelqu'un qui est prisonnier de son amour ou de son goût ou de sa curiosité pour l'objet. Donc il est captif de l'objet. En revanche, le vendeur peut vendre dans toutes sortes de pays, par toutes sortes d'opérateurs, pas forcément par un commissaire-priseur, et c'est lui qu'il faut convaincre avant tout, parce que sans vendeur, pas de vente aux enchères.
Absolument. Et là, vous voyez, donc, puisque nous avons ce rôle d'observation économique des enchères, c'est-à-dire que nous chiffrons aussi bien le marché français que le marché étranger, nous voyons quel type de vente, moyenne gamme, prestige, etc. Quand même, si on prend les 3 dernières années, on voit une diminution des ventes en France de grandes collections.
Mais là, Catherine, je ne voudrais pas rentrer dans une problématique, surtout que je suis suissesse et vis en Suisse, mais la fiscalité française est affligeante. Elle est le meilleur pourvoyeur des ventes étrangères. Je me souviens, lorsque l'impôt sur le capital a englobé les bijoux, François Curiel, qui est le grand opérateur international de bijoux chez Christie's, m'a dit « Merci beaucoup à M. Mitterrand, nous allons maintenant renforcer nos ventes de Genève et d'ailleurs. » Et c'est bien dommage, parce que j'en ai été une des victimes à l'époque.
Alors, je dirais, parce que je ne veux pas rentrer dans des considérations donc évidemment politiques, mais je dirais que la fiscalité française, il y a des taxes qui sont problématiques, comme la taxe à l'importation. Bon, la plus-value, sur notamment les métaux, etc., c'est pas vraiment un énorme problème. Je dirais que ce qui est plus gênant, c'est que quand de temps à autre ressurgit des fausses bonnes idées, parce que ça, même si ça n'est pas appliqué, ça alerte sur un état d'esprit en disant peut-être qu'un jour il y aura une nouvelle taxe. Et quand on voit ressurgir tous les 2-3 ans l'ISF, évidemment c'est pas très porteur pour donc
le marché français. C'est punitif.
Bon, mais il faut bien se rendre compte, parce que c'est une question de bon sens. Moi, puisque je dialogue aussi avec les pouvoirs publics, on dit toujours, mais pourquoi est-ce que, c'est l'exemple qu'on cite dans tous les journaux, pourquoi est-ce que l'agriculteur de l'île de Ré, puisque le terrain dans l'île de Ré vaut une fortune, il est à l'ISF et pas celui qui est propriétaire d'un Rembrandt? Moi, je réponds très justement et très simplement à Bercy. Vous savez, votre prêt dans l'île de Ré, vous ne pouvez pas l'emporter sous le bras et traverser la frontière. Votre Rembrandt, il n'y a aucun problème pour le faire. Donc, un ISF sur zéro, ça ne donnera jamais à l'État que zéro. Donc voilà, c'est la fausse bonne idée. Et il n'y a pas d'ISF donc sur les objets d'art en France.
Donc d'impôt sur le capital.
C'est vrai que lancer périodiquement cette idée n'est pas rassurant pour le marché de l'art.
Alors, ma chère Catherine, nous arrivons malheureusement au terme de cette émission, mais qui est beaucoup trop courte. Si vous voulez bien, je vous réinviterai à notre micro. Je vous remercie infiniment d'être venue. Vous avez un temps très compté, je le sais. Vous êtes un personnage très important. Et merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous et je suis sûre que nos auditeurs aussi. Alors, à une très prochaine fois.
Merci Viviane. Et le plaisir est partagé.
C'est gentil. Et on remercie aussi, bien sûr, Jackie Elsesser, qui a enregistré cette émission et qui va la monter. Merci Jackie. À bientôt.